Chapitre 35. La femme de chambre avait la désagréable impression d'être une débutante dans les arts du cirque. Le gros citron, d'un jaune d'anthologie, ne cessait de rouler sur le plateau d'argent, menaçant de tomber au sol puis de rouler dans l'escalier. À tous les coups, il allait tournoyer comme ça jusqu'au bureau du directeur. Pour se faire engueuler, il n'y a pas mieux, se dit-elle. Personne pour la voir. Elle mit le citron dans sa poche, son plateau sous le bras, et continua de monter les escaliers. Au Lutetia, le personnel n'avait pas le droit à l'ascenseur, et puis quoi encore? D'ordinaire, avec des clients qui demandaient un citron au sixième à pied, elle se montrait assez désagréable. Mais, évidemment, pas avec Monsieur Eugène. Monsieur Eugène, c'était autre chose. Un type qui ne parlait jamais. Quand il avait besoin de quelque chose, il posait sur le paillasson de sa suite une feuille de papier écrite en grand caractère pour le garçon d'étage, avec ça, toujours très poli, très correct, mais un vrai dingue. Dans la maison, enfin, comprenez, au Lutetia, il avait suffi de 2 ou 3 jours pour que Monsieur Eugène fût connu comme le loup blanc. Il payait sa suite en liquide, plusieurs jours à l'avance, on ne lui avait pas remis sa note qu'il avait déjà réglée. Un original, personne n'avait jamais vu son visage. Quant à sa voix, seulement des sortes de grognements ou de rires stridents qui vous faisaient éclater de rire ou qui vous glaçaient le sang. Personne ne savait à quoi il s'occupait réellement. Il portait des masques démesurés, jamais les mêmes, et se livrait à toutes sortes de fantaisies, la danse du scalp dans les couloirs qui faisait pouffer les femmes de service, des livraisons de fleurs en quantité extravagante. Il envoyait les garçons de course acheter toutes sortes de choses incongrues au bon marché, situé juste en face, de la pacotille qu'on retrouvait sur ses masques, des plumeaux, des feuilles de papier doré, du feutre, des couleurs. Et pas seulement cela. La semaine dernière, il avait commandé un orchestre de chambre de 8 musiciens. Prévenu dès leur arrivée, il était descendu, était resté debout sur la première marche, face à l'accueil, pour marquer la mesure. L'orchestre avait interprété la marche pour la cérémonie des Turcs de Lully, et il était reparti. Monsieur Eugène avait distribué des billets de 50 francs à tout le personnel pour le dérangement. Le directeur en personne lui avait rendu visite pour lui expliquer que sa générosité était très appréciée, mais que ses fantaisies... « Vous êtes dans un grand hôtel, Monsieur Eugène, il faut penser aux autres clients, à notre réputation. » Mais Monsieur Eugène acquiesça, il n'était pas du genre contrariant. L'histoire des masques, surtout, intriguait. À son arrivée, il en portait un quasiment normal, représentant un visage si bien fait qu'on aurait juré celui d'un homme atteint de paralysie. Les traits étaient immobiles, mais si vivants, davantage même que les masques figés du musée Grévin. C'est celui qu'il utilisait lorsqu'il sortait, rarement d'ailleurs. On ne l'avait guère vu que 2 ou 3 fois mettre le nez dehors, toujours tard dans la nuit, visiblement il ne voulait rencontrer personne. Certains disaient qu'il fréquentait plutôt de sales lieux, à une heure pareille, qu'est-ce que vous croyez, il ne sort pas pour se rendre à la messe. Les rumeurs allaient bon train. Dès qu'un employé revenait de sa suite, on courait l'interroger. Qu'avait-il vu cette fois? Quand on apprit qu'il demandait un citron, ce fut à qui le lui montrait. Lorsqu'elle redescendrait, la femme de service serait assaillie de questions parce que les autres s'étaient toutes trouvées devant des scènes étonnantes, tantôt face au masque d'un oiseau d'Afrique poussant des hurlements stridents en dansant devant la fenêtre ouverte, tantôt au cœur d'un spectacle de tragédie donné pour une 20aine de chaises habillées afin de figurer les spectateurs, mais une pièce avec un acteur unique qui semblait monter sur des échasses et proférer des paroles que personne n'avait comprises. C'était donc la question. Que M. Eugène fût un être anormal, personne n'en doutait, mais qui était-il en réalité? Certains le prétendaient muet puisqu'il ne s'exprimait que par borborygme et écrivait ses ordres sur des feuilles volantes. D'autres affirmaient que c'était une gueule cassée, mais, allez savoir pourquoi, toutes celles qu'on connaissait étaient des gens modestes, jamais des riches comme lui. « Oui, c'est drôle, disait-on, t'as raison, hein, j'avais pas remarqué. »« Pas du tout, rétorquait la responsable des lingères du haut de son expérience de 30 ans dans l'hôtellerie. « Moi, je dis que ça sent l'entourloupe à plein nez. » Elle plaidait pour un bandit en fuite, un bagnard enrichi. Les femmes de chambre riaient sous cape, convaincues que M. Eugène était plutôt un grand acteur, très célèbre en Amérique, séjournant à Paris incognito. Il avait montré son livret militaire à l'accueil, il était obligatoire de déclarer son identité, même si la police venait assez rarement vérifier les hôtels de ce standing. Eugène Larivière. Le nom ne disait rien à personne, il sonnait même un peu faux, trouvait-on. Personne ne voulait y croire. Un livret militaire, ajoutait la responsable des lingères, rien de plus facile à falsifier. Hormis ces rares sorties nocturnes qui intriguaient, M. Eugène passait son temps dans la grande suite du sixième étage, avec, pour toute visite, une étrange et silencieuse petite fille à l'air sérieux d'une gouvernante avec qui il était arrivé. Il aurait pu se servir d'elle pour s'exprimer, mais non, elle aussi était muette. 12 ans peut-être, elle apparaissait en fin d'après-midi, passait toujours bien vite devant la réception sans saluer personne, mais on avait eu le temps de remarquer combien elle était jolie, un visage triangulaire avec des pommettes hautes, des yeux noirs très vifs, habillée modestement, très proprement, on sentait qu'elle avait un peu d'éducation. « Sa fille !» disaient les uns. « Adoptée plutôt !» suggéraient les autres. Sur ce sujet non plus, on ne savait rien. Le soir, il commandait toutes sortes de mets exotiques, mais toujours avec du bouillon de viande et des jus de fruits, des compotes, des sorbets, des plats liquides. Puis, vers 22 heures, on la voyait redescendre, calme et grave, elle prenait un taxi à l'angle du boulevard Raspail et demandait toujours le prix avant de monter. Quand le tarif lui semblait excessif, elle négociait, mais arrivée à destination, le chauffeur se rendait compte qu'avec l'argent qu'elle avait dans sa poche, elle aurait pu payer la course 30 fois son prix. Devant la porte de la suite, occupée par M. Eugène, la femme de chambre sortit le citron de son tablier et le posa en équilibre sur le plateau d'argent. Ensuite, elle sonna, tapota sa tenue afin d'être certaine de faire bonne impression, et attendit. Rien. Elle frappa une seconde fois, plus discrètement. Elle voulait bien servir, mais pas déranger. Toujours rien. Et puis si, une feuille passée sous la porte, « Laissez le citron ici, merci. » Elle fut déçue, mais pas bien longtemps, parce qu'à l'instant où elle se penchait pour déposer son plateau avec son citron, elle vit glisser vers elle un billet de 50 francs. Elle l'empocha et détala aussitôt, comme un chat effrayé qu'on lui reprenne une arête de poisson. Édouard entr'ouvrit la porte, passa la main, tira le plateau, referma, alla jusqu'à la table, posa le citron, attrapa un couteau et coupa le fruit en deux. Cette suite était la plus grande de l'hôtel. Les larges fenêtres qui donnaient sur le bon marché dominaient tout Paris. Il fallait beaucoup d'argent pour avoir le droit d'être là. La lumière tomba en faisceau serré sur le jus du citron qu'Édouard pressa délicatement dans une cuillère à soupe au fond de laquelle il avait déposé la quantité suffisante d'héroïne. C'était joli cette couleur, ce jaune irisé presque bleuté. 2 sorties de nuit pour trouver ça à un prix. Pour qu'Édouard se rende compte du tarif, il fallait vraiment que ça soit cher. Ça n'avait d'ailleurs pas d'importance. Sous son lit, le havresac de démobilisé contenait des poignées de billets arrachés à la valise d'Albert, cette fourmi qui entassait en prévision de leur départ. Si le personnel de ménage en avait profité pour se servir, Édouard ne s'en serait pas aperçu, puis il fallait bien que tout le monde vive. Départ dans 4 jours. Édouard remua avec précaution la poudre brune et le jus de citron, vérifiant qu'il ne restait pas de particules cristallisées non dissoutes. 4 jours. Au fond, il pouvait se l'avouer, il n'avait jamais cru à ce départ, enfin jamais vraiment. Toute cette merveilleuse histoire de monument, chef-d'œuvre de drôlerie, cette mystification comme on ne pouvait en rêver plus tonique ni plus joyeuse, lui avait permis de passer le temps de se préparer à mourir, mais pas plus. Il ne s'en voulait même pas d'avoir entraîné Albert dans cette histoire folle, convaincu que tôt ou tard, chacun y trouverait son bénéfice. Après avoir remué avec soin la poudre, il tenta, malgré le tremblement de ses mains, de poser la cuillère en équilibre sur la table sans en renverser le contenu, il prit le briquet, tira l'étoupe et commença à rouler la molette sous son pouce, provoquant des étincelles qui finiraient par allumer la mèche. En attendant, puisqu'il fallait être patient, tout en roulant la molette sans s'arrêter, il regarda l'immense suite. Il s'y sentait vraiment chez lui. Il avait toujours vécu dans de grandes pièces. Ici, le monde était à sa dimension. Dommage que son père ne puisse le voir dans ce décor de luxe, parce que, somme toute, Édouard avait fait fortune bien plus vite que lui et par des moyens pas forcément plus sales. Il ne savait pas exactement de quelle manière son père s'était enrichi, mais il était persuadé que derrière toute richesse se cachaient quelques crimes, inévitablement. Lui au moins n'avait tué personne, tout juste s'il avait aidé quelques illusions à disparaître, accélérer l'effet inévitable du temps. Rien d'autre. L'étoupe se mit enfin à se consumer, la chaleur se dégagea, Édouard posa la cuillère et le mélange commença à frémir, grésillant légèrement. Il fallait être très attentif, tout se jouait là. Lorsque le mélange fut prêt, Édouard dut attendre qu'il refroidisse. Il se leva, s'avança jusqu'aux fenêtres, une belle lumière régnait sur Paris. Il ne portait pas de masque lorsqu'il était seul et surprit son visage dans les vitres, pareil à celle qu'il avait découverte en 1918 lorsqu'il était hospitalisé et qu'Albert avait cru qu'il voulait simplement un peu d'air. Quel choc! Édouard se détailla. Il n'était plus bouleversé, on s'habitue à tout, mais sa tristesse, elle, restait intacte. La faille qui s'était ouverte en lui n'avait fait, au fil du temps, que s'agrandir encore et toujours. Il avait trop aimé la vie, voilà le problème. À ceux qui n'y tenaient pas autant, les choses devaient paraître plus simples, tandis qu'à lui... Le mélange était arrivé à bonne température. Pourquoi l'image de son père continuait-elle à le hanter ? Parce que leur histoire ne s'était pas terminée. Cette idée arrêta Édouard dans son geste, comme une révélation. Toute histoire doit trouver sa fin, c'est dans l'ordre de la vie. Même tragique, même insupportable, même dérisoire, il faut une fin à tout. Et avec son père, il n'y en avait pas eu. Tous deux s'étaient quittés, ennemis déclarés, ne s'étaient jamais revus. L'un était mort, l'autre non, mais personne n'avait prononcé le mot de la fin. Édouard serra le garrot autour de son bras. Tandis qu'il poussait le liquide dans sa veine, il ne put s'empêcher d'admirer cette ville, d'admirer encore cette lumière. Le flash qui le saisit lui coupa la respiration, la lumière explosa sur sa rétine. Jamais il n'en avait espéré de plus sublime.